C'est l'heure du son du jour et c'est également l'heure de recevoir notre invité François Ruffin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de la première circonscription de la Somme et je vais vous faire entendre un extrait, l'extrait d'une bande-annonce d'un film qui va vous parler, puisque ce film, c'est celui de Raymond Depardon consacré aux hôpitaux psychiatriques. On écoute cette bande-annonce.
Donc moi, je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant.
La procédure s'est passée au tribunal. Je n'ai jamais passé au tribunal.
Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais
ici,
vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte.
Ici ?
Ça s'appelle comme ça.
Je ne suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que c'est pas mon rôle. Hein.
Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres.
Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain.
La bande-annonce de 12 jours de Raymond Depardon. Et si je souhaitais vous faire entendre cette bande-annonce, François Ruffin, c'est parce que va sortir le mercredi 6 décembre prochain à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur le financement de la psychiatrie que vous allez porter. Vous avez vu le film de Raymond Depardon?
Oui, c'est un beau film parce que il donne la parole aux patients. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à obtenir et il le fait avec patience, justement, en disant pas franchement grand chose non plus sur la psychiatrie elle-même, parce que c'est un film qui en fait est à la lisière entre la psychiatrie et le judiciaire, lors de rencontres un peu particulières entre les patients qui demandent à sortir, qui sont là en hospitalisation non volontaire, quoi, et qui veulent sortir, et le juge qui doit trancher, quoi.
Un député à l'hôpital psychiatrique, c'est ce récit donc, et également votre proposition de loi sur le financement de l'hôpital psychiatrique. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette question, François Ruffin ?
D'abord parce que c'était une promesse de campagne. Pendant le printemps, je suis passé devant l'hôpital. Il y avait une grève et donc j'ai dit en mangeant un bout de merguez aux salariés qui étaient là, eh ben écoutez, si jamais je suis élu député, je passerai 24 heures dans votre service. Il se trouve qu'à la place d'y passer 24 heures, en tout cas j'ai passé 3 mois sur le dossier, parce que c'est un dossier qui est compliqué, que j'ai voulu rencontrer tous les acteurs, pas seulement me balader, donc j'ai eu l'autorisation par la direction d'aller un peu dans tous les services, rencontrer les cadres de santé, les infirmiers, les aides-soignants, voir des situations où, par exemple, des personnes qui sont à 4 par chambre, dans des chambres qui sont supposées être pour 2, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour circuler entre les lits, il y a des armoires qu'on se partage, et on vit comme ça dans cette promiscuité pendant plus d'un an, un an et demi. Et donc ce que je dis, c'est des fois, même si on vous mettait, vous qui êtes pas fou, en hôpital, dans ces conditions-là, peut-être qu'avec pareille promiscuité, vous seriez fou en sortant, quoi. Bon, voilà, donc j'ai vu aussi des gens qui étaient retenus dans leur chambre sans qu'il y ait des avis du médecin signés régulièrement pour les enfermer derrière des oculus. Et puis j'ai vu surtout le grand découragement des salariés de l'hôpital psychiatrique je fais une distinction entre l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier. Donc l'intra-hospitalier, c'est le personnel qui travaille à l'intérieur des milieux de l'hôpital psychiatrique, et quasi systématiquement, il me disait, on n'a plus le sentiment de faire notre métier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des suppressions de postes, parce qu'il y a des suppressions de services et tout ça. Et en revanche, en extra-hospitalier, donc ce qui est les CMP, ce genre de choses-là,
c'est
les endroits pour recevoir les patients, mais sans qu'ils aient besoin d'être hospitalisés à l'intérieur. Donc là, il y a un fort sentiment de encore faire son métier. Donc voilà, moi aujourd'hui, là, donc je suis allé voir la direction, je suis allé voir l'agence régionale de santé en cherchant des solutions. Mais
qu'est-ce que vous voyez comme solution, François Ruffin, à cette situation ?
D'abord, il y a un truc qui est très positif, c'est la solidarité entre l'intra et l'extra, quand même, et surtout le désir de tous d'aller vers l'extra-hospitalier, c'est-à-dire de recourir le moins possible à l'enfermement. Maintenant, le problème, c'est que à peu près la moitié des lits sont pris par des gens qui sont là depuis plus d'un an. Alors, ça peut être des personnes dangereuses, mais c'est une toute petite minorité. La grande majorité, ce sont des gens qui ne trouvent pas de place à l'extérieur. Par exemple, on peut penser à des personnes autistes, on peut penser à... Enfin, voilà, qui n'ont pas de place dans des centres d'accueil, parce qu'il y a trop peu de centres d'accueil qui se créent. Donc, qu'est-ce que ça donne, par exemple, pour les personnes autistes, ça donne de l'exil en Belgique. Mmh. On demande aux parents de garder les gens à leur domicile, ou alors, en dernier recours, on envoie en hôpital psychiatrique et ça reste là en longue durée. Donc on a à peu près la moitié des lits qui sont ainsi embolisés, disent les toubibs, les psychiatres. Donc il devrait y avoir un grand programme de construction de centres d'accueil à l'extérieur, d'autant qu'il y a une deuxième raison à ça, il pourrait y avoir une raison budgétaire aussi. Il y a une raison de bien-être, c'est que c'est pas leur place d'être en hôpital psychiatrique, et il devrait y avoir une raison de bien-être aussi, budgétaire. Parce que une nuit, une journée en hôpital psychiatrique, c'est à peu près 800 euros. Une journée en centre à l'extérieur, on est aux alentours de 300 euros. Donc il pourrait y avoir la conjugaison des deux. Donc voilà, il pourrait y avoir un grand programme là-dedans. Et le deuxième chose que je vois en discutant avec l'Agence régionale de santé, c'est la diminution du budget consacré aux hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire que le budget des hôpitaux classiques augmente de 2% par an en moyenne, via la tarification à l'acte qu'on peut contester, mais enfin ça a conduit à une augmentation de 2%, tandis que le budget des hôpitaux psychiatriques, lui, stagne, voire diminue. On peut pas demander et donc ça conduit à des fermetures de services en cascade et tout ça, et donc à du mal-être chez le personnel, évident chez le personnel hospitalier. Et donc, moi, ma proposition numéro 1, la plus simple, et celle qui, là, pour le coup, a été bien accueilli par toutes les sensibilités presque de l'échiquier politique, c'est de dire il faut raccrocher le budget des hôpitaux psychiatriques au budget des hôpitaux classiques. Si ça augmente de 2% dans les hôpitaux classiques, ça doit augmenter aussi de 2%. Vous savez, il y a ce chiasme. On dit misère de la psychiatrie, psychiatrie de la misère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les pauvres qui vont dans user de cette psychiatrie-là. Ceux qui ont plus de moyens vont potentiellement en psychiatrie publique. Et puis, c'est la misère de la psychiatrie. Si on veut sortir de ça, c'est en commençant par ne pas réduire insidieusement, parce que ce sont des gens qui ont du mal à se défendre et qui ne sont pas défendus, le budget de la psychiatrie. Et donc, cette proposition de loi a reçu, je le dis, de tous les groupes, il y a des députés de tous les groupes de l'Assemblée nationale qui ont signé cette proposition de loi, à l'exception d'En Marche.
Mais dans le même temps, on a regardé tout à l'heure, vous et moi, les chiffres de la psychiatrie. Alors, le paradoxe, c'est qu'en fait, la psychiatrie en France est environ 20 milliards d'euros. Il y a eu une augmentation significative, mais cela comprend tous les soins psychiatriques. Est-ce que pour vous, c'est aussi le révélateur d'un certain malaise français, François Ruffin? Parce qu'on sait que nous sommes très forts également pour consommer des psychotropes, des calmants. Bref, ça aussi, ça rentre dans le budget de la psychiatrie, même si c'est la psychiatrie de ville.
Alors, l'information pour moi forte du papier que vous m'avez donné tout à l'heure, c'est qu'il y a 7 millions de Français qui sont soignés pour troubles psychiques. Et donc c'est ça la force de l'information. Donc là, ça fait le lien avec un entretien que j'avais eu avec un psychiatre il y a une douzaine d'années, parce que c'est pas la première fois que j'étudie l'hôpital psychiatrique, et qui me disait auparavant, quand on était mal à son boulot, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir le syndicat et on se battait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les psychotropes. Donc il y a un évident malaise croissant dans la société, et il est atténué, il est soigné, il est anesthésié par la consommation de psychotropes. Bon, ça m'amène à une deuxième proposition de loi qu'on va porter pour le 1er février, qui est sur le burn-out, sur l'épuisement professionnel.
Expliquez-nous en quoi vous allez donc déposer une proposition de loi, François Ruffin.
Je ne sais pas si vous avez vu le cache investigation sur Lidl. Bon, mais moi j'ai un camarade de foot qui jouait dans le club de Rimont-Suran, qui était directeur d'un Lidl près d'Amiens à Longo. Eh bien, à force de contraintes de sa direction, de pression mise sur lui, pourquoi aussi? Parce qu'il avait de l'ancienneté et parce qu'il allait falloir le payer davantage, on l'a conduit à la dépression et à des idées suicidaires. Et il a fallu qu'il aille voir des psychiatres, tout ça. Et donc, il est sorti de l'entreprise, mais il est sorti en lambeaux. Et derrière, c'est pas l'entreprise qui paye ça. Ça va être la sécurité sociale, et puis surtout il va se retrouver avec pas grand chose, parce qu'en plus les prud'hommes, vous savez, la réforme des prud'hommes qu'il y a eu, même si là il y a une forte responsabilité de l'entreprise, ça va être 20 mois maximum.
Vous faites référence au plafonnement.
Au plafonnement dans la loi qui vient d'être votée là, d'ailleurs. Mais
cela dit, Lidl a fait son mea culpa après ce cash investigation.
Ouais, mais le problème, de toute façon, moi on va pointer Lidl, mais ce management, c'est dû à la pression du chômage qui est à l'extérieur, qui fait que les gens qui sont... Moi, je ne cesse là J'ai vu des gens de la halle aux chaussures. J'ai vu des camionneurs. Partout où je vais, j'ai vu des gens d'une entreprise de bâtiment. La phrase qui revient dans le monde salarié, c'est j'ai peur. Je vais pas parler. J'ai peur. Nous avons peur. Vous savez, c'est... et l'un d'eux me dit, ça me fait penser à, je sais plus, si c'est René ou Roger Gicquel, c'est pas, mais qui dans les années en 1972 ou 74 avait déclaré à l'occasion de l'affaire Patrick Henry, la France a peur. Et moi, je dis, ça me fait penser à une autre phrase qui est celle de Henri Krasucki, qui donc leader de la CGT, qui disait à propos du chômage, la peur a changé de camp. Et ça me fait aussi penser à la phrase de Jean-Paul II, n'ayez plus peur. Et moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, n'ayez plus peur. Et donc, si n'ayons plus peur ensemble, parce que la peur, je peux l'avoir aussi moi-même, mais n'ayons plus peur de, voilà.
Et si justement,
baisser,
le fait d'être
baisser le malaise de la société, c'est essayer de libérer quelque chose de ce côté-là, quoi.
Le fait d'être député, François Ruffin, alors que vous avez été journaliste, idéaste, vous considérez peut-être toujours d'ailleurs comme journaliste et cinéaste. Est-ce que cela vous a donné d'autres moyens d'agir? Comment jugez-vous, après donc ces quelques mois passés à l'Assemblée nationale, le pouvoir dont vous disposez en tant qu'élu?
Il est évident que moi je dis que ma parole n'a pas plus le même poids depuis que je suis élu. Et c'est moi je dis j'ai une parole libérée qui veut libérer. Voilà. Donc d'ailleurs, les gens ils viennent me voir et disent ah c'est une bouffée d'air. Qu'est-ce que vous nous faites du bien et tout ça, parce que quelque part j'ai l'impression de participer. On va toujours rester dans la psychiatrie, mais lors d'une psychothérapie de groupe politique, mais pas plus politique que ça. Mais enfin, on est de quelque chose. On respire quoi. Donc j'amène une respiration. Et par ailleurs,
bon, si c'est pas revient... seulement le non. fait de recueillir la parole.
Non, de la pas seulement pas la recueillir, ça. Mais de la porter. Vous savez, je cherchais. Il y a une continuité dans mon parcours. Dans Fakir, je cherchais à représenter les gens, à leur donner une représentation. Dans mon film Merci Patron, je cherche à donner une représentation aussi aux classes populaires, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce que je fais en tant que représentant? C'est toujours la même fonction que j'occupe. Et je veux que les gens se reconnaissent dans la parole que je porte. Et que ça fait du bien. Moi, j'ai traversé des années où j'avais le sentiment de ne pas être représenté. Qu'il y avait personne qui portait ma parole dans l'espace public.
Pourquoi?
Pourquoi?
Il n'y avait aucun parti politique qui trouvait grâce.
Non, il n'y avait pas de parti politique, mais au-delà de ça, ça peut être des figures d'intellectuels, ça peut être des figures. J'avais pas le sentiment d'avoir. Alors ça m'est arrivé 2-3 fois d'entendre des mots. Puis après, il y a quand même l'étau médiatique aussi, hein.
On va en parler, juste sur les intellectuels, il n'y avait aucun intellectuel.
Si, par exemple, je vais vous dire un grand moment de respiration. Moi, c'était d'apercevoir. Je le connaissais pas. Moi, j'étais pas dans une famille d'intellectuels, donc j'étais pas en contact du monde intellectuel régulièrement. Mais Serge Halimi est passé à Arrêt sur Image dans l'émission de Daniel Sederman quand c'était encore sur France 5.
Serge Halimi du monde diplomatique.
Voilà, du monde diplomatique, avant que ne paraissent les nouveaux chiens de garde. Pour moi, ça a été une respiration. J'ai vu quelqu'un qui portait la parole que j'avais envie d'entendre, et ça m'a fait du bien. Je pense procurer aujourd'hui à des personnes dans ce pays le même bonheur de se dire il y a quelqu'un qui porte notre parole. Et par ailleurs, quand même sur la fonction de député, parce que ça ne se limite pas à ça, même si c'est important, mais est-ce que vous croyez que la direction de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel m'aurait laissé rentrer, aller accéder à tous les services? Est-ce que quand j'ai fait une restitution devant l'hôpital, parce que j'avais ensuite eu l'interdiction d'y entrer par la direction pour cette restitution, est-ce que les syndicats s'y sont associés? Aujourd'hui, j'ai pu interpeller la ministre au sein de l'Assemblée nationale qui m'a dit non mais il n'y a pas de problème, il y a des certifications, il y a de l'audit. J'ai repris la parole en disant vous ignorez, vous êtes aveugle et sourde, vous ignorez la parole des patients, des familles, et ainsi de suite. Derrière, il y a l'autre député, Damien, qui visite l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel. J'aurais pas vu cet effet d'entraînement si jamais j'avais pas été député. Parce que pourquoi? Parce que je peux dire la même chose, mais jusqu'alors, j'étais le petit canard sympathique ou pas sympathique d'Amiens, quoi.
Donc
voyez,
ça vous a donné effectivement une visibilité et un accès. Et du point de vue des médias, puisque j'ai lu que vous considériez que vous aviez débuté par la critique des médias, est-ce que votre regard sur les médias a changé, François Ruffin? Bon,
moi, je crois qu'on est dans une situation un peu schizophrénique à l'égard des médias, c'est-à-dire que d'un côté je pense que je suis plus valorisé que la moyenne des députés par les médias, et en même temps des fois vous demandez comment ça fonctionne ce truc quoi. Normalement j'étais sans doute l'un de ceux qui étaient le plus armés intellectuellement pour faire face à ça. Et je me j'ai des scènes là. Par exemple, j'ai fait une intervention très forte sur la dépakine et mettant en cause le gouvernement et mettant
donc,
en cause
la dépakine pour rappeler juste le dépakine, ce que c'est, un médicament.
C'est le médicament qui est pris par les personnes souffrant d'épilepsie et qui a produit un certain
des
nombre d'enfants autistes quand il était pris pendant la grossesse et qu'il n'y avait pas de contre-indication claire. On estime à 14 000 potentiellement le nombre d'enfants nés autistes à cause de ça. Et donc c'est Sanofi qui est le producteur de ça. Donc je fais une intervention où je rappelle que en catimini, à l'invitation d'un lobby qui est le Cercle de l'Industrie, Édouard Philippe est venu sur le site de Sanofi. Bon, j'ai une réponse du Premier ministre qui est de dire on ne doit pas critiquer les grandes entreprises françaises. Bon, bah, très bien, mais à partir de combien de victimes on peut critiquer? À partir de combien de salariés licenciés, ainsi de suite. Donc je fais un truc assez costaud et il y a un vrai duel dans l'Assemblée. Je me dis, bon allez, cette fois je vais aller à la salle des quatre colonnes qui est là où il y a les caméras. Mm-hmm. Bon, et d'habitude ce mur de caméras et de micros m'impressionne et je choisis de ne pas l'affronter. Là je me dis, bon, je vais y aller, je vais aller parler à des paquines. J'arrive, qu'est-ce que vous pensez du drapeau européen? Vous dites, merde, parce que c'est quand même une question de santé publique que je viens poser, éventuellement des liens entre les laboratoires pharmaceutiques et la politique et tout ça. Et on passe complètement à côté.
Si vous trouvez que les petites polémique, on va quand même vous poser quelques questions à ce sujet dans la deuxième partie des matins, François Ruffin. Vous trouvez que les journalistes s'intéressent à de faux problèmes?
En tout cas, moi, de toute façon, je pense qu'il y a un problème, c'est celui du journalisme politique. Le journalisme politique, c'est pas, il tend à se renfermer sur les petites déclarations des uns et des autres plutôt que d'ouvrir la fenêtre et regarder si ce qui est dit par les politiques est en adéquation avec la société. Vous voyez? Et donc, moi, il y a une espèce de rétrécissement comme ça pour moi du journalisme politique. Et c'est vrai que je peux vous raconter une autre scène, mais un autre soir où je fais une intervention à nouveau assez musclée sur les conflits d'intérêts de Macron quand il était chez Rothschild et aujourd'hui avec Lagardère, en disant voilà, la surexposition de Macron dans les médias Lagardère, c'est aussi parce que chez Rothschild il a traité le dossier Lagardère et qu'il a traité le dossier EADS quand il était à l'Élysée. Bon, voilà, et il y a une tension dans l'Assemblée. Je sors, de quoi on rencontre sur les sites internet, de ma chemise qui dépasse du pantalon, quoi. Bon, je ne savais plus quoi faire.
On va continuer à évoquer ces thèmes-là. On va voir dans quelle mesure les journalistes politiques peuvent s'intéresser à d'autres questions qu'à des questions qui vous paraissent effectivement représenter l'écume des choses. On vous retrouvera donc en deuxième partie, François Ruffin, aux environs de 8h20. Vous êtes député de la première circonscription de la Somme. Il est 8h sur France Culture.